Tous Apocalypse, film et collectif, Luffy Fam, on débobine.
We're family people, we don't know nothing about fight.
Je m'appelle Léo, j'ai 11 ans et j'ai un secret, je suis un héros.
Ça vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? C'est moi.
Quand le ciel devient sombre, tout sombre, quand il fait nuit, pourquoi je me sens triste?
C'est le moment de votre émission quotidienne sur le Festival international du film d'Amiens. Bienvenue, chers auditeuristes, dans ce troisième épisode de On débobine. On est déjà à la moitié de la semaine. C'est dingue à quel point ça passe vite, n'est-ce pas Antoine?
Beaucoup trop vite, ouais, je suis d'accord avec toi.
Alors, au programme de cette nouvelle journée, un aperçu de la section films et collectif et un aperçu des coulisses du festival. Donc 13 films sont programmés pour illustrer le film et collectif, dont une série de moyens et courts-métrages réalisés dans les années 60 par le groupe Medvedkin. Qu'est-ce que le groupe Medvedkin, me demanderez-vous? Pour répondre à cette question, je suis allée à la rencontre de Catherine Roudet qui a écrit une thèse sur le cinéma militant. C'était un échange passionnant et vous allez voir qu'en même pas 10 minutes, on comprend tout de cette expérience sociale audiovisuelle menée par des personnes du milieu et des ouvriers et ouvrières. Catherine Roudet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous venez présenter les films qui ont été réalisés par le groupe Medvedkin.
Oui.
Qu'est-ce que ce groupe?
Alors le groupe Medvedkin de Besançon, c'est un peu une émanation de plusieurs entités. D'abord, c'est un groupe qui est né d'une rencontre suite à la grève de la Rodia Cessa à Besançon en 1967, grande grève avec occupation, où les animateurs de la grève, qui étaient des ouvriers, des enseignants, qui avaient un centre culturel dans Besançon et qui étaient très très liés avec les ouvriers de la Rodia Cessa, qui ont invité le cinéaste Chris Marker, qui était à l'époque très lié au mouvement Peuple et Culture, né à Grenoble à la suite de la Seconde Guerre mondiale, par des anciens résistants. Ils l'ont invité à venir se rendre compte un peu de ce qui se passait. C'était un cinéaste qui, à l'époque, tournait beaucoup en Chine, en Israël, en Norvège, etc. Enfin, donc c'était un cinéaste qui était quand même connu, un globe-trotteur. Et en fait, ils l'ont dit, mais en fait, si vous n'êtes pas en Chine ou ailleurs, il se passe des choses à Besançon, venez donc voir ce qui s'y passe. Et il a répondu à cette invitation. Il a rencontré les ouvriers grévistes, il a publié un article dans le Nouvel Observateur, donc qui a permis aussi de médiatiser un peu différemment la grève. Et en fait, très vite, il a bien accroché avec les militants culturels qui était présent. Il a décidé de faire un film sur la grève de la Rodia Cessa avec Mario Marais, qui est un comparse cinéaste, membre du Parti communiste à l'époque, et qui a du coup co-réalisé le film avec lui. Et de cette collaboration, cette fréquentation assez assidue avec les ouvriers de la Rodia et les militants culturels du CCPPO, le Centre culturel populaire de Palantes-les-Hors-Champs, donc un quartier de Besançon, est née l'envie aussi de faire des films. Et donc, suite à la projection d'A Bientôt J'espère, qui a été donc le film de Chris Marker et Mario Marais sur la grève, qui a été assez mal reçu par les ouvriers, Chris Marker leur a dit: de toute manière, un film sur les ouvriers, il n'y a que les ouvriers qui peuvent le faire, donc on va vous aider, mais vous allez le faire. Et de là sont nés des espèces d'ateliers d'initiation avec des chefs opérateurs qui étaient parmi les plus grands chefs opérateurs du cinéma français de l'époque, qui se déplaçaient sur leur temps de week-end à Besançon pour faire des ateliers d'initiation à la caméra, des ingénieurs du son. Et de ces ateliers sont nés plusieurs films, dont Classe de lutte et trois petits courts-métrages qui s'appellent Nouvelle Société, qui sont projetés au festival.
Donc Nouvelle Société numéro 5, Kelton, numéro 6, Biscuit Tribulaire, et numéro 7, en OG Découpage.
C'est ça.
C'est des films qui sont réalisés, mais qui sont des voix-off, des entrevues, c'est du documentaire. Pourquoi ce choix de faire vraiment que des voix-off et des images?
Alors je pense que c'est pas tellement un choix. C'est une contrainte économique, on va dire. Le cinéma synchrone existe à l'époque, mais en fait, il est très cher. Et ça demande aussi un savoir-faire technique qui n'était pas, malgré les ateliers, pas celui des ouvriers de l'époque. Ce qui fait que le fait de choisir à la fois des voix off permettait de se libérer du son synchrone. Et le fait d'utiliser des images qui étaient prises, soit des images directes captées, on voit beaucoup les navettes qui amènent les ouvriers sur les lieux de travail. On a aussi beaucoup de photos, d'images détournées de publicité. Ça permettait d'avoir une collection d'images qui permettait un peu de raconter le travail sans filmer le travail, puisque la présence d'une caméra dans l'usine étant soumise à l'autorisation du patron de l'usine, évidemment, les ouvriers n'avaient pas le droit de faire entrer la caméra dans l'usine. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir raconter le travail, les à côté, l'impact du travail sur la vie de famille, à part d'autres images que vraiment des images de la chaîne dans l'usine.
Et c'est pas aussi l'objectif d'apporter des solutions, c'est pas ça le principe, c'est vraiment c'est du militantisme où on montre vraiment ce qui se passe.
Oui, alors là l'idée c'est effectivement ça s'inscrit pas du tout dans un programme idéologique ou dogmatique, on va dire, adossé à un parti. L'idée, c'est vraiment de permettre la libre expression des ouvriers sur leurs conditions de travail, qui finalement est une parole qu'on entend peu, et encore moins dans les années 70. Et ce qui, en fait, ces films-là leur permettent vraiment de choisir les thèmes dont ils souhaitent parler, qui sont pas forcément des thèmes dont on parle beaucoup. Il y a beaucoup de récits sur l'impact, en fait, sur la vie familiale du travail à l'usine, qui sont pas du tout des sujets abordés ni par les partis représentants des ouvriers ni dans la presse à l'époque.
Pourquoi Medvedkin ?
Alors, Medvedkin, c'est vraiment l'influence de Chris Marker, mais Medvedkin, c'est un cinéaste soviétique et dont on a découvert, enfin, donc Chris Marker notamment, mais ça a été documenté par la suite, a découvert l'existence des trains de propagande. Alors, dans la Russie soviétique, ça se faisait beaucoup, puisque la Russie était un pays paysan sur un très immense territoire et aussi avec une très très peu d'alphabétisation. Donc, la propagande suite à la révolution soviétique est passée énormément par le train qui permettait de transporter des cinéastes et par des projections, en fait, qui permettaient d'apporter la propagande du parti communiste soviétique sur l'ensemble du territoire soviétique. Et Medvedkin avait cette particularité que ses films étaient tournés sur place, c'est-à-dire que dans son train il y avait un studio de cinéma, il y avait de quoi faire du son, il y avait de quoi faire de l'image, et surtout il y avait de quoi faire du montage. Donc le principe était qu'ils arrivaient dans une collectivité, alors j'ai dit du son, mais en fait à l'époque il n'y avait pas de son, je retire. Donc ils arrivaient dans une collectivité, ils rencontraient les ouvriers, les paysans du coin, ils enquêtaient un peu, ils en faisaient un film, ils faisaient une projection, et il y avait vraiment un débat sur les difficultés rencontrées par la communauté suite à la projection du film. Et c'est cette idée, en fait, d'enquêter sur une communauté et d'avoir un impact direct sur la communauté, en fait, immédiat, qui a beaucoup séduit Chris Marker, qui en a parlé aux ouvriers, qui ont décidé d'adopter ce nom-là, et il a même fait venir Medvedkin en France en 71. Il a tourné un petit film sur lui. Voilà, qui s'appelle Le Train en Marche.
Alors, il y a aussi donc là, pour revenir un petit peu sur ce qui a été réalisé par le groupe Medvedkin, il y a Classe de Lutte qui suit la création d'un syndicat. Donc c'est fait par une ouvrière, ce qui change. D'habitude, c'est plutôt les ouvriers qui sont mis en avant. Pourquoi il est important, ce film ?
Alors, ce film, il est important parce que c'est vraiment, en fait, la première réalisation du groupe Medvedkin de Besançon. Alors, en sachant que groupe Medvedkin, en fait, enfin, il y a cette nébuleuse collective et que c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont travailler sur les mêmes films, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le premier film, donc le film de Chris Marker et Mario Marais, À bientôt j'espère, on voit cette ouvrière. Et on la voit, elle est mutique, assise à côté de son mari, qui parle de son militantisme, qui parle de l'impact du travail et du militantisme sur leur vie de famille, mais elle ne dit rien. Et en 68, donc arrive le mouvement de mai 68, de mai juin 68, et elle participe à la grève, et pendant un meeting devant l'usine, qui est filmé par des cinéastes qui sont là parce qu'ils participaient aux ateliers de réalisation autour du groupe Medvedkin, elle monte sur un mur et elle fait un discours pour encourager ses camarades à continuer la grève. Discours très percutant, très fort, qui se retrouve dans le film de Classe de Lutte. Et en fait, à partir de là, elle va s'inscrire dans le militantisme, créer une section CGT dans son usine, et en fait Classe de Lutte suit cet épanouissement militant, et il révèle aussi un personnage complètement effacé auparavant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une collaboration hybride, puisque à l'image on va avoir Bruno Muel et Georges Binetruy, qui est un ouvrier, lui, Bruno Muel étant un cinéaste qui est venu à Besançon, et Georges Binetruy vraiment un ouvrier de la Rodiaceta qui a appris à tourner avec ses ateliers. Et au montage, on va retrouver Nejma Sialom, donc qui est une monteuse cinéma, et Paul Seb, qui est un agitateur culturel qui est présent dans l'usine et au CCPPO. Et donc, c'est cette rencontre vraiment humaine, avant tout, qui va lancer le tournage du film.
En quelques mots, vraiment très rapide, en quoi est-ce que les films du groupe Medvedkin a changé aussi une certaine vision du cinéma?
Alors, ce qui est très très fort dans les films des groupes Medvedkin, c'est que souvent, même les films qui s'intéressaient à la condition ouvrière auparavant, c'était des films qui étaient tournés avec un point de vue extérieur. Des films de militants, communistes, qui venaient dans les usines, mais c'était des personnes extérieures. Ce qui change, c'est que là, on a des sources de première main, c'est-à-dire des personnes qui vont prendre en main leur propre représentation. Et ce qui fait qu'on a des films qui sont dans leur forme, alors très expérimentaux aussi pour des contraintes techniques, comme on le disait, mais aussi parce qu'il n'y a pas ce formatage cinématographique. Ce n'est pas des personnes qui ont appris à faire du cinéma via les écoles, ce n'est pas des personnes qui ont l'expérience du cinéma. Et ce qui fait qu'elles ont une forme assez libre et pas du tout dogmatique aussi, comme ça peut l'être dans le cinéma militant qui va être conduit par les partis. Et ce qui fait que c'est des films aussi qui traversent vraiment le temps assez facilement, enfin beaucoup mieux que d'autres films réalisés dans les dogmes de l'époque par des professionnels.
Merci Catherine Roudet.
Merci à vous.
Dans les autres rencontres de cette semaine, il y a aussi eu Colette Caisson, productrice de deux films diffusés au FIFAM, Festival International du Film d'Amiens, cette année, dont Le Dernier Continent de Vincent Lapize, qui suit un collectif de militants et militantes qui sont opposés au projet d'aéroport Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes. Et je vous propose qu'on s'écoute l'échange qu'on a eu. Colette Caisson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc productrice et vous venez présenter deux films du réalisateur Vincent Lapize. Alors, première question, qu'est-ce que le métier de productrice ?
Ah, alors il faudrait presque 3 heures pour répondre, mais on va essayer de le faire vite. C'est un métier que moi je qualifierais un métier d'accompagnement. Une amie comme ça a une société qui s'appelle Alter Ego. Donc l'idée c'est qu'on est une sorte d'alter ego du réal, du réalisateur, voilà, qu'on échange autant que possible. Comme beaucoup de personnes, les réalisateurs ont besoin de ça, enfin en tout cas ceux moi avec lesquels j'aime travailler, ils aiment échanger, et sur toutes les questions qui concernent la conception, mais qui concernent la production, qui concernent l'équipe, les différents choix qu'on fait tout au long de la création d'un projet. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, t'es producteur, toi t'es réalisateur, il y a un projet qui est sur la table là, entre nous. Parlons de tout, échangeons sur tout et faisons en sorte que ce film soit le meilleur possible. Donc c'est aussi, pour certains réalisateurs, il y a une question parfois un peu d'ego, ou en tout cas c'est leur film, c'est clair. Mais du coup, c'est essayer de les aider à trouver la bonne voie, à faire les bons choix. Et ce qui est intéressant dans le métier de producteur, c'est aussi bien savoir à qui on a affaire, bien s'intéresser à la personnalité d'un auteur spécifiquement, pour qu'il fasse le meilleur film pour lui aussi. Et parfois, il peut, à certains moments, parce qu'il est beaucoup sur l'établi, beaucoup sur le projet, ou parce qu'il est beaucoup en contact avec différentes personnes de l'équipe, lui permettre de revenir, voilà, à ce qui fait le cœur de son projet, lui rappeler, mais il y a 5 ans, il y a 3 ans, ce qui était fondamental, c'était ça pour toi. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu as changé? Ou est-ce que tu reviens? Ou est-ce que c'est... Voilà, à un moment donné, les choses se perdent parce qu'il y a beaucoup d'événements dans la production d'un film qui font qu'on peut, on peut perdre le cap. Ou alors, on décide que le cap évolue et que, voilà, que le cœur du film va un peu évoluer. Voilà, un travail d'accompagnement, je dirais.
Et donc, vous avez accompagné Vincent Lapize pendant plusieurs années, puisque Le Dernier Continent a été tourné et réalisé il y a 10 ans, c'est ça? Qu'est-ce que Le Dernier Continent? Est-ce que vous pouvez nous présenter ce film qui est donc diffusé dans la section Filmé Collectif?
Alors Le Dernier Continent, c'est un film qui a été tourné pendant 2 ans sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Zone à défendre
de Notre-Dame-des-Landes, en Pays de la Loire, à côté de Nantes, qui était la zone sur laquelle devait se construire l'aéroport. On a appris plus tard, après la sortie du film et longtemps après sa réalisation, que effectivement cette lutte était victorieuse finalement, puisque cet aéroport était abandonné. En tout cas, l'idée du film, c'était pour Vincent de tourner sur la durée avec différents personnages qui forment justement une sorte de collectif sur la ZAD, et de s'intéresser aux raisons d'agir. Voilà. C'est vraiment un film qui se pose à côté d'eux, qui les regarde agir, agir ensemble. Et je dirais, dans ce film, il y a cette notion-là sur pourquoi sommes-nous là, chacun, à défendre ce projet en commun. La question des communs, c'est vraiment au centre du travail de Vincent Lapize. Et tout en étant un film aussi qui donne la part belle à cette zone, il y a vraiment une place de la ZAD comme un personnage extrêmement bien filmé dans sa temporalité, dans le rapport à la nature, dans quelque chose d'un peu magique aussi qui émane de cet endroit. Voilà, donc en toile de fond, le film raconte un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, mais le cœur du film, c'est vraiment de se dire, voilà, quel est le sens de notre engagement.
Qu'est-ce que ça apporte, une diffusion comme ça? Donc c'était en 2015, donc c'est 10 ans après, une diffusion dans un festival de cinéma.
Alors, ce qui est formidable, c'est tout simplement montrer les œuvres qui sont produites. C'est toujours un plaisir, moi c'est toujours un plaisir qu'un film soit vu, et 10 ans plus tard encore plus, parce que je pense qu'effectivement ce film, il garde une place, il garde une actualité d'une façon ou d'une autre. Voilà, le cinéma documentaire, ce n'est pas du reportage, ou ce n'est pas, enfin voilà, on capte un événement et puis voilà. Non, c'est toujours des films qui vont chercher une idée, une impression, voilà, une vision. Et du coup, cette vision-là, elle est encore valable aujourd'hui. Et puis, c'est d'autant plus intéressant, là, je pense, que pour les spectateurs qui auront la chance de venir voir aujourd'hui Le Dernier Continent et qui pourraient venir demain voir La Terre des Vertus, c'est passionnant de voir, je pense, la démarche d'un réalisateur. Je pense qu'il a évolué, le temps est passé, et en même temps, c'est fondamentalement quand même sa personnalité qui s'exprime, son regard qui s'exprime, son écoute d'un terrain comme ça, de lutte. Ça fait très plaisir.
Ce deuxième film, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors, La Terre des Vertus, c'est un film qui a été tourné dans les jardins ouvriers d'Aubervilliers, qui s'appelle Les Jardins des Vertus, d'où le titre La Terre des Vertus, et qui raconte la mobilisation de la population des jardins contre la création d'une zone autour d'une piscine d'entraînement olympique pour les Jeux Olympiques de 2024, qui devait être accompagnée d'un solarium et d'une zone commerciale, d'une zone de bien-être, et qui supposait de la démolition de jardins ouvriers. Vincent, c'est un réalisateur très engagé, ça c'est sûr. Aussi, dans son approche du réel, il passe beaucoup de temps sans caméra. Dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'était un endroit où il y avait une méfiance énorme des caméras. C'était pas du tout simple de sortir une caméra, donc il a commencé par passer plusieurs semaines et mois à travailler sur la ZAD avec les uns les autres, parler, discuter, faire à manger, faire des cabanes, pour vraiment s'immerger dans une réalité avant de sortir une caméra. Et puis au-delà de ça, c'est quelqu'un qui par exemple, travaille beaucoup sur le son, Vincent. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de rush. Dans les deux cas, dans les deux longs métrages, on avait à peu près une centaine d'heures de rush. Mais peut-être 30 heures de rush sonore. C'est-à-dire qu'effectivement, ce travail sur le son, c'est passionnant, parce que on est capable de se livrer un peu plus avec le son uniquement. Et puis effectivement, d'avoir comme ça, il a souvent eu des échanges à très long cours avec certains personnages, 2 heures, 3 heures, 4 heures de discussion enregistrées, pour voilà, entrer dans la pensée intérieure, vraiment dans l'état d'esprit de quelqu'un, voilà, aller assez profondément dans ses pensées.
Mieux comprendre les rouages aussi, comment ça fonctionnait. Et du, justement, ce côté collectif, en quoi est-ce qu'il a une place extrêmement importante dans le film?
Alors, dans Le Dernier Continent, c'est vraiment un film sans personnage. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais souvent l'habitude de dire que ça n'aurait pas eu de sens d'avoir un héros, comme dans le cinéma, on parle du héros, hein, ou en tout cas du personnage principal d'un film qu'on suit, le super zadiste qu'on suit et qui est formidable, etc. Il y en a eu des films comme ça. C'était un contresens parce que la ZAD, c'était par définition un collectif. C'était vraiment un collectif de gens nombreux, mouvants, avec des gens qui étaient là, qui repartaient, qui venaient, qui repartaient, d'autres qui étaient là depuis très longtemps, etc. Donc c'était vraiment la justesse de ce mouvement, c'était vraiment l'idée du collectif. À l'époque, les gens qui étaient sur la ZAD, ils s'appelaient Camille, et ils s'appelaient tous Camille, pour masquer leur identité. Donc ça en dit long aussi sur le côté protéiforme de ces mouvements, avec des gens qui n'étaient pas toujours d'accord exactement sur les moyens de lutte. On le voit un petit peu dans le film, sur comment on fait, qu'est-ce qu'on fait d'abord, qu'est-ce qui est prioritaire. Donc voilà, cette idée du collectif, elle est au cœur des deux films, mais en particulier au cœur du Dernier Continent, parce que, au centre du travail de Vincent Lapize, il y a cette idée du commun, voilà, d'essayer de filmer les communs, d'essayer de rendre vivant ce qui peut être commun, à l'humanité, enfin, ou à un groupe de personnes, à un endroit. Et puis, cette idée que chacun à sa façon, avec ses limites aussi humaines, apportait une pierre à l'édifice de cette lutte.
Merci beaucoup, Colette Caisson, d'avoir répondu à quelques questions.
Merci.
Alors, grâce à ces rencontres, on comprend aussi l'importance de cette section cette année. Le collectif, il a une place très forte dans le cinéma. Et parmi les autres films proposés, Antoine, il y en a un autre que tu as vu.
Oui, tout à fait. Je suis allé voir Oasis, qui a été réalisé par un collectif d'étudiants chiliens qui ont filmé les manifestations qu'il y a eu au Chili à partir de 2019 et ensuite au début des années 2020. Pour réformer la constitution du Chili. On suit un petit peu tout le processus, toutes les propositions de nouvelles constitutions, les périodes de vote et les nombreuses manifestations qu'il y a. Et au début, je m'attendais à ce que ce soit uniquement centré sur ceux qui protestaient pour avoir une nouvelle constitution. Et finalement, assez rapidement dans le film, on voit également qu'il y a beaucoup de groupes qui sont là pour maintenir l'ancienne constitution, qui sont contre les réformes, contre le progrès, contre la mise en place d'une politique davantage de gauche. Et j'ai été vraiment très très surpris de découvrir le résultat final que je vais évidemment pas spoiler ici pour ceux qui seraient pas au courant de ces événements politiques.
C'est sympa pour le public.
Ah, t'as vu, je pense à eux, je suis charmant. Mais
charmant.
Charmant, tout à fait. Mais voilà, c'est assez passionnant à suivre, très bien filmé pour le coup, et c'est vrai qu'on voit des styles très différents, ce qui fait un petit peu le charme de ces collectifs de réalisateurs justement, et c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc oui, un plaisir à découvrir.
Ouais, une belle découverte, mais cette section, je trouve que c'est que des belles découvertes. Il y a plein de choses différentes, il y a même du cinéma portugais. Ni toi ni moi, on connaît le cinéma portugais.
Du tout, c'est vrai que c'est enrichissant ce point de vue-là.
Et donc, c'est une belle sélection. Et si jamais, vous n'avez pas eu le temps de voir tous les autres films de la section Filmé Collectif, il en reste un qui est diffusé ce vendredi à 14h15 au cinéma Orson Welles. Ça s'appelle Matryoshka et ça suit un petit peu le quotidien des enfants dans une crèche. Donc voilà, ça a l'air très très intéressant. C'est un film collectif, puisqu'il n'y a pas un seul ou une seule réalisatrice. Et à l'issue de cette séance, vous pourrez rencontrer l'équipe. Voilà, donc ça a l'air extrêmement intéressant. Moi, je vous encourage à y aller. Avant de clôturer ce nouvel épisode de On débobine, Léo, je me tourne vers toi. Tu as été à la rencontre des petites mains du festival. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, donc déjà, merci à toi, Colline. Du coup, j'ai eu l'occasion d'avoir des retours avec Sacha, donc, qui est étudiante à l'université, qui participe aussi à un atelier journalisme en parallèle à la radio. Donc on est allé à la rencontre du personnel du FIFAM. On a pu découvrir brièvement les rôles de chacun et chacune. Ces personnes, on peut dire qu'ils sont quand même parfois dans l'ombre, permettent notamment l'organisation du festival qui se fasse dans de bonnes conditions, tout simplement.
Eh bien, on s'écoute ça tout de suite.
Bonsoir, on se retrouve sur Radio Campus, je suis avec Samir.
Je fais le FIFAM depuis 2012, en qualité de chauffeur. Depuis 2012, on voit quelques différences, oui, c'est vrai que le festival a connu à l'époque, même avant 2012, beaucoup, beaucoup plus de monde. C'est vrai que, après, on va dire après Covid, quoi. C'est vrai qu'il y a eu l'effet Covid, je pense, pour tout le monde, pas que pour le festival, pour la culture en général.
Je suis avec Anne-Lise qui travaille pour le FIFAM. Tout simplement, qu'est-ce que vous faites au sein du FIFAM?
Alors, moi, je suis chargée de l'accueil invité, donc je m'occupe des invités, gérer leur venue, leur gestion, mais aussi leur planning sur le festival.
Par rapport au FIFAM, est-ce que vous avez déjà pu avoir des retours sur cette année?
Oui, vendredi, on a fait une belle cérémonie d'ouverture avec pas mal de monde. On a pu présenter la programmation, ce qui a permis au public de découvrir d'autres films qu'ils avaient déjà repérés. On a fait aussi un beau premier week-end avec une belle fréquentation, beaucoup d'étudiants, et donc ça commence très bien.
Je suis avec Jade qui travaille donc pour le FIFAM cette année.
Je suis chargé d'action culturelle, mais en gros, je m'occupe des bénévoles. Pendant le festival, ça prend pas mal de temps, et en amont, je prépare tout ce qui concerne le jeune public, quoi, les partenariats, soit les séances scolaires spécifiquement, soit des collèges, lycées qui veulent venir en petits groupes, et aussi des assos locales.
Donc justement, là, pour le FIFAM, vous avez quand même recruté plusieurs bénévoles.
Généralement, si on compte, on a les volontaires d'Unicité qui viennent nous filer un coup de main, et si on les additionne au reste des bénévoles, on est aux alentours de 100.
Est-ce que vous avez eu peut-être des retours déjà sur certains films, courts-métrages, longs-métrages qui sont déjà sortis depuis le début du FIFAM?
Les bénévoles s'occupent des prix du public, donc c'est la compétition long métrage. Et c'est vrai que on a un peu de toutes les cinéphilies, on va dire, dans les bénévoles. Donc du coup, c'est toujours intéressant d'entendre leur avis, parce qu'on peut avoir parfois, nous, c'est vrai, des films qui sont entre guillemets un peu niche. Cette année, j'ai vraiment vu que des retours. À chaque fois qu'ils reviennent, ils ont adoré le film en compétition. Et notamment, j'en ai eu une qui a enchaîné Le Gâteau du Président, qui est donc en compétition sélection officielle chez nous, avec Taxi Driver, qu'elle n'avait jamais vu, et qui m'a dit qu'elle avait préféré Le Gâteau du Président. Non, il y a un grand classique à côté d'un film qu'on a sélectionné, et que c'est le film qu'on a sélectionné qui plaît le plus, on se sent quand même plutôt fier.
C'est sûr qu'il y a une certaine fierté justement par rapport à ce thème qui peut être différent par rapport aux précédentes années. C'est pareil, est-ce que vous avez un avis sur ça, tout simplement?
Moi, j'ai la chance d'arriver un peu avant et de parfois découvrir des films si on a les liens. Je suis bon public, je dirais. C'est peut-être parce que je les vois cravacher, trouver des films et en parler avec passion au quotidien, mais je j'aime beaucoup, moi, les thèmes de cette année. J'aime bien les thèmes qui permettent des thèmes, comment dire, très transversales, quoi, qui permettent d'avoir à la fois des grands classiques, à la fois des raretés, à la fois des films très engagés, notamment sur les situations actuelles à Gaza, en Ukraine ou autre. Et du coup, là, je trouve que Ville en Mouvement permet ça. Douce Apocalypse, c'est peut-être un peu plus, du coup, pour le coup, un peu plus expérimental, un peu plus niche, mais on a aussi une partie de notre public qui aime ça. Et Filmé Collectif, c'est complètement ma cam. Donc du coup, j'aime beaucoup le fait que, surtout qu'on l'a mis en parallèle avec l'année dernière, il y avait Filmé Seul. Donc du coup, voilà, l'idée, c'était de faire Filmé Seul l'an dernier, Filmé Collectif cette année. Je trouve ça encore plus intéressant quand ça se répond comme ça d'une édition à l'autre, quoi.
Merci Léo et Sacha pour la réalisation de ces petites interviews. On débobine épisode 3 édition FIFAM 2025, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais on ne change pas les bonnes habitudes, et avant de ranger les micros, voici l'agenda de la soirée. À 20h30, Affection de Alexia Walter et Maxime Matré au cinéma Orson Welles. Et à 21h15, Le Diable fume et garde les allumettes brûlées dans la même boîte de Ernesto Martinez Buccio au ciné Saint-Leu. Alors ce film-là, il a un nom rigolo, mais il n'est pas rigolo.
Ah non, il est absolument pas rigolo pour le coup. Enfin absolument pas, non, j'exagère un petit peu. Il y a quand même pas mal de moments qui sont assez amusants parce qu'on suit toute une fratrie, sont de nombreux frères et sœurs qui vivent chez leur grand-mère parce que leurs parents sont absents tous les deux. Et il y a pas mal de moments qui sont amusants et touchants parce qu'on suit les enfants qui se soutiennent entre eux parce que justement ils grandissent pratiquement sans leurs parents, ils chahutent, ils se taquinent un petit peu, mais on voit que c'est toujours avec beaucoup d'amour. Et donc beaucoup d'humour aussi. Mais forcément, voir des enfants grandir sans enfants, voir les services sociaux s'en mêler.
Des enfants sans parents.
Je me suis trompé.
Les enfants et grandissent sans enfants.
Ah oui, parce que les enfants sans enfants, ça paraît logique, effectivement. Mais les voir grandir sans parents et avec une grand-mère qui n'est pas forcément toujours dans les meilleures conditions pour s'occuper d'eux, ça provoque un petit peu de peine aussi, évidemment. C'est un film qui est assez touchant, qui peut être un petit peu long, je trouve, mais qui vaut le coup d'œil en tout cas.
Et c'est un film en compétition, on l'a pas dit, mais c'est un film qui est en compétition cette année au festival. On se retrouve demain, et le programme, il est tout autant chargé que les jours précédents. Nous allons rencontrer Agathe Bonitzer, qui a carte blanche cette année au festival, et en deuxième partie d'émission, nous évoquerons la section Ville en Mouvement, qui est quand même une des premières sections du festival qu'on n'a pas du tout évoquée pour le moment. Nous, on vous dit à demain pour le 4e épisode de On débobine, la quotidienne du Festival International du Film d'Amiens.
On a déjà hâte et j'espère que vous aussi.